Point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans Point de mire aujourd'hui, je vous invite à ouvrir l'œil et particulièrement même les deux yeux puisque nous allons admirer et avoir les yeux rivés sur une exposition qui est un événement à Paris. C'est l'exposition qui regroupe les toutes premières reproductions photographiques qui étaient à l'Institut de France, dans le fond de l'Institut de France, et qui sont exposées en ce moment au musée Marmottan-Monet. J'ai pour nous accompagner dans cette promenade photographique, cette promenade en exposition, deux personnes qui ont été chargées de cette exposition, qui en ont assumé le commissariat scientifique, c'est Catherine Dallarin et Laurence Amouda. Laurence Amouda, bonjour.
Bonjour.
Nous parlerons avec Catherine tout à l'heure. Nous allons commencer avec Laurence parce qu'elle va nous expliquer les liens entre la photographie et l'Institut de France. Pourquoi y a-t-il des liens? Pourquoi l'Institut de France a-t-elle une richesse particulière dans le monde de la photographie?
L'Institut de France a un fonds photographique extrêmement riche et très ancien qui date des origines de la photographie. L'Institut est en effet lié dès les tout débuts du médium à la photographie car Niepce et Daguerre se sont tournés lorsqu'ils avaient entrepris des travaux pour découvrir le procédé photographique. Ils se sont tournés vers l'Académie des sciences et vers le secrétaire perpétuel François Arago. Dès 1835, et Arago s'est fait le promoteur de cette toute nouvelle invention qui l'a époustouflée, et il s'en est fait le promoteur à l'Institut de France. Dans une séance célèbre, il a offert au monde l'invention de la photographie.
Donc c'était en 1839.
En 1839, la séance date précisément du 19 août 1839. Il y avait ce jour-là un monde fou à l'Institut, on se pressait parce que Arago, qui voulait ménager le suspense, avait, lors d'une séance précédente en janvier 1839, annoncé qu'une invention tout à fait extraordinaire était à l'ordre du jour, mais il attendait d'avoir permis à Daguerre d'obtenir de l'État une pension pour sa découverte. Il attendait d'avoir obtenu donc cette pension pour offrir au monde la découverte de la photographie.
Donc grand événement, l'Institut ayant donc été à l'origine de cet événement et il faut l'en remercier. Et donc dans l'exposition que vous avez mise sur pied, si j'ai bien compris, vous montrez une partie de ces documents, mais seulement une partie. Il y en a tout de même plus de 200, d'après ce que j'ai vu.
Mais c'est alors, l'exposition en présente 220 oui. Épreuves originales, mais en réalité, le fonds de l'Institut, les collections qui se trouvent dans les divers lieux qui dépendent de l'Institut de France, compte 40 000 épreuves. Donc c'est un fonds effectivement très important.
Oui. Et qui sont parvenus à l'Institut comment?
Alors, ces épreuves sont parvenues de diverses manières. Il y a bien sûr au tout début, dans les premières années, les chimistes, les inventeurs, ceux qui cherchaient à perfectionner le procédé, qui envoyaient à l'Académie des sciences des notices et des épreuves pour faire valider leur découverte, faire enregistrer leur découverte. Ensuite, les différents savants dans les différentes académies et les artistes à l'Académie des Beaux-Arts ont utilisé la photographie et ont souvent légué leur collection à l'Institut, à leur académie, à la bibliothèque de l'Institut.
Alors j'ai découvert en allant voir cette exposition qu'il y avait un legs particulièrement important, c'était celui de Schlumberger, Gustave Schlumberger, qui avait offert 5000 clichés et dont on voit, je crois, l'immense album, un très très grand album qui représente, enfin en tout cas vous l'aviez ouvert aux pages, qui représentait des photographies de la Mecque,
oui.
Et la pierre noire de la Mecque. Ça n'a pas beaucoup changé, ça c'est au moins un lieu qui n'a pas beaucoup changé. Et donc ce fonds Schlumberger est important, y en a-t-il eu d'autres?
Alors oui, il y a le fonds Schlumberger qui est un fonds considérable, mais il y a par exemple le fonds d'un archéologue, le fonds de Homol qui est lui-même extrêmement important, qui compte aussi 5 ou 6 000 épreuves. Donc ce sont des fonds de nature différente. Homol était un archéologue et ce sont des photographies qui concernent l'archéologie, alors que Schlumberger était un collectionneur et qu'il avait confectionné des albums de voyage avec des épreuves qu'il avait rapportées de ses voyages et qu'il avait aussi achetées chez les marchands qui en vendaient à l'époque à Paris, à Londres ou à Rome. Et il a légué, lui, à sa mort, non seulement ses albums de photographie, mais ses recueils de gravures, sa correspondance. C'est un legs global à l'intérieur duquel eh bien, se trouvait effectivement une vingtaine d'albums contenant environ 5000 épreuves.
Alors, je dois aussi préciser que toutes deux, donc Laurence et Catherine, vous vous occupez des services, des actions pédagogiques à l'Institut de France. Parlez-nous un tout petit peu, Catherine, de ce service. Comme le nom l'indique, je suppose qu'il est destiné à mettre en valeur des richesses de l'Institut de France auprès des jeunes élèves.
Tout à fait. Le service pédagogique a été créé il y a maintenant quelques années et notre mission dans le cadre de l'Institut de France et dans celle qui nous a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale est de mettre à disposition le plus possible des enseignants et de leurs élèves le patrimoine de l'Institut. Ça signifie que nous avons travaillé jusqu'à présent sur des sujets extrêmement divers parce que nous avons découvert peu à peu toutes les richesses que conserve l'Institut de France. Nous avons travaillé sur les jardins, nous avons travaillé sur le mariage d'Anne de Bretagne, et puis au fil de nos recherches, eh bien, nous avons pensé que le fonds photographique méritait, et ça s'est révélé très largement, d'être mieux connu, donc des professeurs et des élèves, et puis au-delà, grâce à cette exposition, d'un public plus large. Mais donc c'est effectivement notre mission et nous nous adressons prioritairement aux professeurs et à leurs élèves.
Alors j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et on va leur conseiller fortement d'emmener les élèves parce que vraiment on s'attend, je crois, quand on va voir cette exposition, à voir une exposition des toutes premières photographies avec des clichés un peu passés, tout ça, alors que la qualité des documents qui sont exposés est tout à fait exceptionnelle, j'ai trouvé, et surtout que cette exposition est tellement bien organisée qu'on s'y promène avec un grand plaisir.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais effectivement, on s'attend à trouver des épreuves parmi les toutes premières, c'est vrai. Mais notre exposition montre des photographies jusqu'à la guerre de 14-18. C'est dire que nous couvrons malgré tout plus de 50 ans d'histoire, 60 ans, et que les professeurs et leurs élèves ont là une série de documents qui peuvent être particulièrement utiles pour leurs cours et qu'elle est très parlante pour les élèves.
On va se promener dans cette exposition, je vous y invite. Alors on commence et quand on commence, on rentre au début de l'exposition et on commence par saluer à tout seigneur, tout honneur, on salue les membres de l'académie qui sont là, des académies. Alors il y a évidemment Victor Hugo par Nadar, le célèbre portrait, Victor Hugo qui était entré à l'Académie française en 1841. Et puis il y a aussi Monsieur Thiers qui était lui membre de l'Académie des sciences morales et politiques, donc, et aussi le duc d'Aumale, qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques un petit peu plus tard, 1889, et qui est photographié par Joseph Vigier. Adolphe Thiers, lui, étant photographié par Nadar aussi. Donc, une fois qu'on a salué ces maîtres de l'Académie, nous pouvons passer dans l'une des premières salles où l'on trouve des photographies et des premiers documents qui sont extrêmement émouvants, je trouve, parce qu'ils nous reproduisent des lieux archéologiques dans l'état premier où on les a trouvés. Alors Catherine Dallarin.
La section qui concerne la photographie archéologique est particulièrement riche à l'Institut de France. Elle est liée évidemment, en l'occurrence, à l'activité de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce qui nous a permis d'ailleurs montrer d'une part des photographies d'artistes véritablement très très abouties du point de vue esthétique, et ce qui nous a permis de montrer également comment la photographie a pu être utilisée par les savants, les archéologues en particulier, et comment elle a étayé épauler les travaux des savants à une période où l'archéologie se constitue, se donne véritablement des règles scientifiques. Et là, évidemment, la photographie est arrivée à point nommé.
C'est un document. Donc, il y a un lien très fort entre l'archéologie comme science et la photographie comme technique.
Évidemment.
Et tous les deux trouvent
évidemment
leur manière de s'exprimer l'un l'autre.
La photographie vient véritablement prêter main forte à une archéologie de terrain. Ce qui est quand même une nouveauté, en l'occurrence.
Oui, d'autant qu'on y découvre des lieux. Moi, j'en ai noté quelques-uns. On découvre, par exemple, Palenque, au Mexique, en 1898, qui est encore dans les broussailles, qui n'est pas du tout nettoyé comme on le voit aujourd'hui. C'est très intéressant de le voir dans l'état où on l'a découvert. Pas tout à fait à l'époque, mais enfin presque. Et puis pareil pour Chichen Itza aussi, tout ça est dans les herbes. On assiste avec ces photographies aux premières découvertes en Grèce.
Tout à fait.
Aussi l'Acropole en 1852. Enfin, on fait un voyage dans le temps. Et alors, tous les pays de la Méditerranée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, évidemment, qui ne saurait être oublié, mais aussi des photographies de Suse, des photographies de Jérusalem. Enfin, on fait un grand voyage, puis alors après, hop, on saute l'océan et on se retrouve aux USA, où il y a aussi des photographies anciennes.
Tout à fait. Vous voyez, ça nous a permis effectivement un très large tour d'horizon. Mais je précise malgré tout que ce voyage archéologique débute par quelque chose qui est tout à fait remarquable. Ce sont les photographies de Maxime Ducamp. Et c'est le premier reportage photographique, si l'on peut employer le terme.
Dites-nous un tout petit peu qui il est pour qu'on se le souvienne. Alors, il est parti pour l'Égypte avec Flaubert,
c'est ça ? Il est parti pour l'Égypte avec Flaubert. Il a d'ailleurs eu beaucoup de mal, au fond, à convaincre Flaubert. Flaubert travaillait à l'époque à la tentation de Saint-Antoine, il était malade. Donc Maxime Ducamp a dû vaincre un certain nombre de réticences. Et tous deux s'embarquent. Nous avons d'ailleurs montré, parce que nous avons également exposé une série d'archives, de pièces d'archives, qui font véritablement partie intégrante de l'exposition. Et nous montrons le passeport délivré par le ministère à Maxime Ducamp et à Flaubert. Alors, Maxime Ducamp part doté d'une mission du ministère de l'Instruction publique et des cultes.
C'était M. Guizot, sans doute, à l'époque.
Il part muni des instructions de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et il remplit sa mission avec conviction, c'est-à-dire qu'il photographie. Ses notes sont très très amusantes, les notes de voyage que nous montrons aussi sont très amusantes. En tout cas, il prend sa tâche au sérieux, sous le regard manifestement sceptique de Flaubert. Mais il rapporte donc le premier voyage photographique en Égypte dont nous avons la trace. Et il lègue, puisqu'il est élu plus tard, évidemment, à l'Académie française, eh bien, il lègue tous ses documents photographiques à l'Institut. C'est ainsi que l'Institut conserve les 214 négatifs de Maxime Ducamp. C'est tout à fait exceptionnel. Par d'évidence, l'Institut est seul à les posséder et nous en exposons pour la première fois 3.
Donc on comprend maintenant, on commence à comprendre un peu mieux la richesse de l'Institut de France dans le domaine de la photographie. Et je rappelle que cette exposition se tient donc au musée Marmottan à Paris, au musée Monet Marmottan, qui lui-même, je crois, avait un fonds de photographie assez riche, n'est-ce
Il
pas
Il a un très beau fonds de photographie, des portraits d'artistes en particulier. Et nous avons eu la joie d'être accueillis effectivement pour cette exposition au musée Marmottan-Monet qui a ouvert au public un étage entièrement rénové. Donc c'est dans un cadre particulièrement exceptionnel que nous avons eu la chance de présenter cette exposition.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Canal Académie, on retrouve Hélène Renard.
Alors, je dois dire que dans le tour du monde aussi que l'on fait avec ces photographies, On est très bouleversé par toutes les images qui concernent la guerre de 14, la destruction de Paris sous la Commune, toute cette époque, car c'était les premières fois que l'on pouvait voir donc des photographies de reportages de guerre en quelque sorte.
Oui, il y a à l'Institut des reportages de guerre qui compte parmi les tout premiers du genre, en particulier celui qui est à Chantilly de la guerre de Crimée, au musée Condé de Chantilly, qui pour des raisons testamentaires ne peuvent pas sortir du musée, mais à l'Institut et à la Fondation Thiers, il y a un ensemble qui concerne la Commune de Paris, qui est très important et très intéressant. Alors, les conditions techniques de la photographie à l'époque, le contexte, ne permettaient guère de prendre de photographies véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui des photographies de guerre, des photographies où l'on voit du mouvement. Donc, ce sont surtout des états-majors qui sont photographiés.
Oui, enfin, dans les tranchées, on voit nettement des combattants.
Ah oui, pour la guerre 14-18, la technique a beaucoup évolué.
Oui, mais pour la guerre de Crimée pour la commune, c'était plus figé.
Ce sont des images plus figées, mais néanmoins très saisissantes quand on voit l'état-major qui pose devant l'hôtel de ville avant destruction, lorsque l'on voit les ruines de Paris.
Et la colonne Vendôme brisée en morceaux. Voilà, je ne l'avais pas vue.
La colonne Vendôme renversée, et puis divers monuments ruinés. Ce sont des images d'une grande beauté.
Oui, c'est très émouvant, c'est vrai. Il y a aussi un autre secteur dans cette exposition, ce sont les photographies qui ont un rapport avec, disons, la science géologique ou médicale. Laquelle de vous deux a envie d'en parler ?
Oui, alors
Laurence Amouda.
Le fonds scientifique, le fonds de photographie scientifique est évidemment très riche à l'Institut. La majorité des photographies scientifiques se trouvent, enfin une bonne partie, disons, se trouve aux archives de l'Académie des sciences. Mm-hmm. Et évidemment, comme l'invention de la photographie a été présentée à l'Académie des sciences, tous les premiers inventeurs, les noms connus, des tout débuts de la photographie.
Alors, dites-nous quelques noms, s'il vous plaît.
Hippolyte Bayard, voilà. William-Henri Fox Talbot, Louis-Désiré Blanc-Carrévrard ont envoyé leurs travaux à l'Académie des sciences. Alors, cette partie de photographie scientifique a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les inventeurs qui envoient des essais expérimentaux.
Oui.
Et puis, il y a aussi les scientifiques eux-mêmes qui utilisent la photographie pour leurs travaux véritablement scientifiques. Alors là, les médecins peuvent faire appel à la photographie, les biologistes qui vont faire de la microphotographie, les astronomes qui s'intéressent aux vues du ciel, qui leur permettent de prendre des photographies d'éclipses et qui leur donnent des informations sur la connaissance du ciel.
Voilà, absolument. On y voit, je crois, des photos de la Lune qui datent de 1897. Était-ce dans les toutes premières photos ?
Oui, il y en a même qui sont plus anciennes. Dans l'exposition, il y a une éclipse de 1867 qui avait été observable d'Espagne. Donc, il y avait toute une communauté scientifique qui avait fait le déplacement et on avait installé des appareils photographiques avec des télescopes pour pouvoir photographier cette éclipse.
On y voit aussi, évidemment, dans le domaine médical, enfin pour moi qui m'intéresse un peu à la psychologie, on y voit les photos des personnes qui étaient hystériques et soignées ou observées par Charcot, ce qui est tout de même aussi un document.
Ah oui, là c'est la première fois que la photographie est intégrée au milieu hospitalier.
Hospitalier, voilà clinique, complètement.
Clinique, oui. Le professeur Charcot à la Salpêtrière avait créé un service photographique et il avait chargé deux internes de prendre des photographies des états passagers des hystériques. Et ça a donné un album qui est assez bien connu, et dont la bibliothèque conserve un exemplaire, où l'on voit les hystériques dans les différentes phases de leur crise. Cela constitue à la fois des archives et puis une documentation sur les pathologies. C'était véritablement de la photo documentaire en réalité.
Absolument. Thank you. Avec mes invités, Catherine Dallarin et Laurence Amouta, qui sont chargés du service des actions pédagogiques de l'Institut de France, nous nous promenons donc au sein de l'exposition de photographies des collections de l'Institut de France, qui se tient en ce moment au musée Marmottan-Monet, collections qui vont de 1839 à 1918. Il y a aussi un tour du monde dans ces photographies, parce que on se promène en Mongolie, en Chine, au Vietnam, on y voit la reine de
Cambodge.
La reine du Cambodge, oui, dans une tenue absolument extraordinaire, dans deux tenues. Alors racontez-nous cela.
Alors là, ce sont des photographies effectivement qui frappent, qui nous frappent aujourd'hui. C'est cette reine du Cambodge qui est photographiée de deux manières, une première fois dans son costume indigène et une seconde fois dans un costume très Second Empire avec une robe à crinoline.
Oui, oui.
Et c'est surtout la confrontation des deux images qui est tout à fait extraordinaire.
Et aussi, ça m'ont beaucoup frappé les prisonniers en Mandchourie, les prisonniers fer aux pieds,
oui.
Véritablement esclaves.
Hein, oui, oui, oui.
Donc alors, là, on est quand même fin du 19e siècle.
Oui, autour de 1880. Oui. Alors en fait, toutes ces photographies ont été rassemblées par des amateurs de photographies qui en faisaient l'acquisition lors de voyages ou qui les achetaient. Et amateurs de photographies qui étaient pour certains membres de l'Institut et qui ont légué leur collection. Donc on a diverses, il y a bien la collection Schlumberger dont nous parlions tout à l'heure, la collection Jacques Siegfried qui se trouvait au château de Langeais. Lui-même avait fait deux fois le tour du monde et a rapporté grand nombre de photographies. Et puis de nombreux académiciens, amateurs d'art qui avaient beaucoup de photographies d'Italie. Évidemment, c'était un pays où il y avait de nombreux studios photographiques qui prenaient tous les sites fameux. Et puis des studios de photographie se sont installés à partir de 1860 un peu partout sur tous les continents. Et ce qui explique que nous ayons donc ce tour du monde qui nous permet de voyager.
Voilà, et qui n'est pas le moins intéressant, bien sûr. À l'Académie des sciences morales et politiques, nous avons une grande dette envers Monsieur Guizot, dont vous parliez tout à l'heure, Catherine Dallarin, puisque c'est lui qui a réhabilité, si on peut dire, et réintroduit l'Académie en 1832 au sein de l'Institut de France. Donc, chaque fois que nous pouvons lui rendre hommage, ici, nous ne manquons pas à l'antenne de le faire. Et Monsieur Guizot, je crois, avait aussi, du temps où il était donc ministre de l'Instruction publique et des cultes, avait, avec Prosper Mérimée, qui lui était, je crois, à l'Académie française, introduit une politique de préservation du patrimoine. Et il avait donc encouragé les photographes à photographier un certain nombre, non seulement de monuments du patrimoine français, mais aussi les montagnes, les paysages qui appartiennent au patrimoine. C'est aussi un aspect très touchant de cette exposition.
Oui, nous avons en effet consacré une partie de cette exposition aux monuments et aux paysages français. Et vous avez tout à fait raison de dire que Guizot est à l'origine de la redécouverte et du recensement, plus exactement, du patrimoine français opéré de manière systématique. Ça a évidemment été conduit par Prosper Mérimée, c'est bien connu. Ce qui, en photographie, nous intéresse, c'est que, là encore, évidemment, la photographie a été l'outil idéal de ce recensement. Et la première commande officielle de l'État dans ce domaine, c'est ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la mission héliographique, qui est lancée en 1851. Donc, 5 photographes, parmi les plus grands, sont choisis par la Commission des monuments historiques et reçoivent chacun un itinéraire, une feuille de route avec une liste de monuments à photographier. Cela a été fait, ça a été un travail de très grande envergure, poursuivi sur plusieurs années et assez curieusement, les documents ont été au fond assez peu utilisés. En tout cas, on a cessé de leur prêter attention. Nous avons montré l'une des photographies. Il y en a un certain nombre à la bibliothèque. Ce ne sont pas d'ailleurs des photographies, ce sont des photolithographies, c'est-à-dire un procédé de reproduction photomécanique.
Voilà, on n'a pas parlé des procédés, mais il est évident qu'ils ne sont pas tous identiques.
Mais enfin, elle est celle que nous montrons est due à Henri Le Sec Là encore, nous voyons, si vous voulez, dans le cadre d'une mission qui avait un but strictement utilitaire, c'est-à-dire de renseigner la commission sur l'état des bâtiments et sur les restaurations à apporter, eh bien, nous avons des œuvres, nous avons ici en tout cas une œuvre qui est parfaitement aboutie du point de vue esthétique, car ce sont en plus de grands artistes.
Je crois que là, nous avons fait le tour de presque toutes les salles, un peu toutes les sections. Il me reste qu'à vous remercier, donc, Catherine Dallarin et Laurence Houda.
Merci.
Vous remercier d'être venue ici à notre radio, Canal Académie, et vous remercier pour ce très beau travail que vous avez effectué. Je rappelle donc que l'exposition La photographie dans les collections de l'Institut de France, donc les toutes premières de 1839 à 1918, cette exposition a lieu au musée Marmottan-Monet, à Paris dans le 16e arrondissement, qu'elle est commencée depuis le 31 mars et qu'elle se poursuit jusqu'au 27 juin 2004. Et je crois que c'est fermé le lundi, je le précise,
oui.
Et je souhaite que de nombreux visiteurs aillent vous rendre visite et puissent se réjouir les yeux grâce à vous. Alors, je signale également un ouvrage tout à fait important qui s'intitule « Éclat d'histoire, les collections photographiques de l'Institut de France », qui est une coproduction Institut de France Actes Sud, un très gros livre, très beau livre qui reprend et qui reproduit les documents que vous pouvez voir à l'exposition et bien d'autres documents sans doute en plus. Un livre qui peut faire un très beau cadeau. Merci infiniment.
Merci infiniment à vous.